Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale que dirige Pierre Hiverna à nos côtés comme chaque dimanche ou presque. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Chaque dimanche ou presque, en fin d'émission, vous nous proposez la chronique La Cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler ?
Je vais vous parler d'une sommelière en huile d'olive.
Ah, ça existe.
Eh bien oui.
Nous le verrons donc tout à l'heure à 12h25. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
La Madeleine de aujourd'hui sera de qui ?
La Madeleine de la romancière Michel Audin.
À 12h15, rendez-vous tout à l'heure. Place pour commencer à notre plat du jour, au lendemain de la journée mondiale du climat. Et dans le cadre de la COP24 qui se tient jusqu'au 14 décembre, Les Bonnes Choses se penchent aujourd'hui sur la nécessaire révolution alimentaire à conduire pour permettre à une population toujours plus nombreuses de se nourrir toujours plus sainement dans un climat toujours plus dégradé. Comment créer un avenir alimentaire durable ? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités ce midi. Bruno Parmentier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes consultant et essayiste, spécialiste reconnu mondialement des questions d'alimentation et d'agriculture. Vous avez longtemps dirigé l'École supérieure d'agriculture d'Angers. On vous doit notamment 3 livres qui ont beaucoup compté, l'un en 2007, il y a maintenant plus de 10 ans, Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au 21e siècle, qui a été suivi en 2011 par Manger tous et bien, et puis Fin zéro, en finir avec la faim dans le monde, ça c'était en 2014. Bonjour à vous, Manon Dugré.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes chargée de mission éducation à l'ANCA. Alors l'ANCA, c'est la chaire Aliments, Nutrition, Comportement Alimentaire de l'école AgroParisTech, qui a élaboré une BD numérique pour tenter de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation à la fois saine et durable, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Manger vers le futur, ça c'est le titre de la BD. Vous nous en dites un peu plus, peut-être pour que nos auditeurs qui ne seraient pas allés encore la voir,
ouais,
et je pense qu'ils sont nombreux, comprennent de quoi il s'agit.
Donc en fait, je travaille dans une école AgroParisTech, je suis ni chercheur ni enseignante comme on pourrait s'y attendre, mais je fais de l'éducation à l'alimentation santé et à l'alimentation durable. Et cette BD, ça partait vraiment de cet objectif de sensibiliser le consommateur aux enjeux de l'alimentation de demain et répondre aussi à ses préoccupations. Donc on est parti sur cette idée de bande dessinée numérique diffusée sur Instagram, constituée de 30 épisodes qui relatent l'histoire de 4 amis, leur évolution sur 30 ans jusqu'en 2050, l'évolution de leur alimentation et voir également comment la société va se positionner sur ces enjeux dans les années à venir.
Et c'est une planche par année ?
Une planche par jour pendant 30 jours et en fait une planche correspond à une nouvelle année pour nos personnages.
Oui, c'est ça. Bruno Parmentier, mercredi, le World Resources Institute, en partenariat avec une foultitude d'institutions, la Banque mondiale, l'ONU pour l'environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement, les agences françaises de recherche agronomique, CIRAD et INRA, eh bien tout ce petit monde a rendu un rapport intitulé « Créer un avenir alimentaire durable, solution pour nourrir quelques 10 milliards de terriens en 2050 ». Quel est pour vous le plus grand défi aujourd'hui ?
Bon, le plus grand défi tout court au XXIe siècle, c'est le réchauffement de la planète. Et pour l'alimentation, elle est 3 fois concernée. Alors, elle est concernée parce que l'agriculture, c'est elle qui souffre. Le réchauffement de la planète, c'est grave pour les coiffeurs et les marchands de téléphones portables, mais c'est surtout grave pour les agriculteurs. C'est eux qui utilisent le rayonnement solaire, l'eau, le climat, etc. Donc, c'est les premières victimes. Mais c'est aussi très important parce que ce sont de très gros contributeurs aux gaz à effet de serre. Grosso modo, notre alimentation, l'agriculture, l'alimentation et tout ce que ça produit, c'est le quart des gaz à effet de serre. Donc d'un côté, il faut produire avec une planète qui se réchauffe, et d'un autre côté, il est urgentissime de produire en produisant moins de gaz à effet de serre. Et puis elle est une troisième fois concernée, et c'est ça qui est très intéressant, c'est le seul secteur qui est 3 fois concerné, c'est le seul qui peut nous refroidir la planète. Parce que on a balancé tout un tas de gaz à effet de serre délétères. Donc, ce qui est très intéressant, c'est d'arrêter. Mais on voit avec les gilets jaunes en ce moment que c'est très compliqué d'arrêter de réchauffer la planète. Hein, parce que il faut changer de mode de vie et c'est très compliqué. Mais on peut peut-être récupérer une partie de ce carbone pour le renfoncer dans la terre. Et dans ces cas-là, ben, c'est pas les plombiers, hein. C'est les agriculteurs. Comment on fait pour prendre le carbone et le renfoncer dans la terre? On plante des arbres et on couvre le sol en permanence. Donc c'est très intéressant de voir comment on va arriver à produire malgré le réchauffement de la planète. Et le défi, il est d'augmenter encore de 70% la production agricole mondiale. Grosso modo un tiers, parce qu'on va être un tiers de plus. Voilà. On est 7,6 milliards, on sera 9,8 milliards. Ben, il faut un tiers pour nourrir un tiers de plus. Mais un deuxième tiers, parce qu'il y aura beaucoup plus de riches. Enfin, je vous parle du petit riche, hein. Le petit riche, quand il était très pauvre et qu'il a eu faim, le premier truc qu'il fait, c'est manger des produits animaux, manger de la viande ou du lait. Heureusement, souvent, c'est que du lait ou que de la viande. Par exemple, en Inde, c'est plutôt du lait et pas beaucoup de viande. En Chine, c'est plutôt de la viande et pas beaucoup de lait. Mais il faut se rendre compte que la viande et le lait, c'est du concentré de végétaux. Parce que le poulet, par exemple, il mange comme nous. C'est exactement les mêmes ingrédients, pas préparés pareil, hein. Il mange du soja, du colza, du blé, du maïs. Sauf qu'il faut beaucoup de grains pour pouvoir faire du poulet. Donc dès qu'on se met à manger de la viande et à boire du lait, on augmente considérablement notre ponction sur la planète. Et je vois pas au nom de quoi on va refuser à des centaines de millions de classes moyennes des pays du tiers-monde de manger du poulet de temps en temps. Donc c'est deux fois un tiers. Et puis, malheureusement, plus on est riche, plus on gâche, malgré tous nos efforts. Et donc, il faut encore augmenter de 70%, et ça va être extrêmement difficile, notamment en Afrique où il faut tripler, ou en Asie, il faut doubler, parce que chez nous, il faut pas augmenter. Chez nous, on mange trop, on fait plus d'enfants. Mais partout ailleurs, faut augmenter. Et ça va être extrêmement difficile de le faire avec les effets délétères du réchauffement de la planète.
L'impact du réchauffement climatique, et d'ailleurs dans les deux sens, hein, l'impact de notre agriculture et de notre alimentation sur le climat d'un côté, et l'impact du réchauffement climatique sur notre agriculture et sur l'alimentation. Le plus grand défi, nous dit Bruno Parmentier, on le voit dans votre bande dessinée Manger vers le futur, Manon Dugré. Je me place dans une année en particulier, 2030, hein, disons que c'est entre 2018 et 2050, comme si c'était une moyenne, où on voit des millions de réfugiés climatiques. Et vous avez rencontré la physicienne et climatologue Katia Laval, qui vous explique beaucoup d'inégalités territoriales à cause du réchauffement climatique différent, et en Afrique notamment, dans les régions du Sud, où c'est encore plus dur qu'ailleurs.
Oui, bah c'est vrai qu'un de nos objectifs, c'était de montrer qu'on parle vraiment de système. Donc le climat impacte directement les populations et puis les modes de production. Ce que dit Katia Laval, c'est qu'effectivement, les zones ne sont pas du tout concernées de la même manière à l'échelle du monde. Et malheureusement, ce sont les pays les plus chauds et les zones tropicales qui sont les plus concernées. Donc c'est d'autant plus important de chercher à réduire les inégalités tout en sachant que ce sont les pays du Sud qui vont être les premiers à subir les conséquences de ce réchauffement climatique. Donc c'est effectivement des choses qu'il faut avoir
en tête. Et puis on entend aussi, et Bruno Parmentier le rappelle, à quel point l'augmentation de la consommation mondiale de viande est quelque chose qu'il faut revoir. Et ça, on va le développer ensemble ensuite, parce que le bœuf, l'agneau, la chèvre en particulier, toute cette consommation et cette limitation de la consommation est essentielle pour enrayer le réchauffement climatique. Et effectivement, la limitation de la production et de la consommation de viande est quelque chose qu'on retrouve de 2018 à 2030 dans votre bande dessinée. Il y a un autre problème que le climat, c'est quand même la démographie, Bruno Parmentier. Aujourd'hui, 800 millions de personnes souffrent de la faim. Qu'en sera-t-il quand on sera 9 ou 10 milliards? Est-ce qu'on a les moyens de nourrir autant de personnes?
Alors, oui, on a les moyens. Deuxièmement, prenons du recul. Il y a 800 millions de gens qui ce soir vont se coucher avec le mal au ventre en disant « J'ai faim, j'ai pas mangé, comment je fais pour manger demain ?» Il y a 1 milliard de gens de plus qui ce soir vont se coucher avec le ventre plein, mais ils ne mangent qu'une seule chose, tous les jours la même chose. Donc leur santé est gravement détériorée parce qu'ils mangent que du manioc ou que du riz. Mais les 800 millions, faut se rendre compte que c'est une constante. En 1900, nous étions 1,8 milliard, il y avait 800 millions de gens qui avaient faim. En 1950, nous étions 3,5 milliards, il y avait 800 millions de gens qui ont faim. Aujourd'hui, nous sommes 7,6 milliards, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Il y a une espèce de loi dans l'histoire de l'humanité, quel que soit le nombre de gens sur la planète, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Mais on peut voir ça positivement. Depuis 1900, on a réussi à nourrir 5,5 milliards de gens de plus sur les mêmes champs. La productivité agricole a augmenté d'une façon considérable. Rien que depuis les années 50, la population a doublé, mais on a multiplié par 3,5 la production mondiale de riz et de blé, par 5 la production de maïs, par 5 la production de fruits et légumes, et même par 14 la production de poulet. Donc d'un côté, on se dit 70% de plus, allez, ça va le faire, on a fait 3 fois plus, etc. Et malheureusement, c'est beaucoup plus difficile, parce que plus on a amélioré la productivité, plus les marges de productivité nouvelles sont difficiles. Et jusque-là, on l'a fait en pillant les ressources de la nature. Grosso modo, on sait produire plus et pas toujours mieux avec énormément de ressources. Maintenant, il faut produire plus et mieux avec moins. Alors même que ça devient plus difficile parce que le réchauffement de la planète arrive.
Une équation complexe, hein, oui.
Et donc, je pense qu'il y a des chances qu'on mange à 10 milliards et il y a des chances que cette loi continue, qu'il y ait 9 milliards d'eux qui mangent et 800 millions de gens qui ont faim. Mais pour pouvoir faire ça, il faut quelque part que ceux qui mangent trop, dont le problème c'est l'obésité, etc., mangent mieux. Par exemple, chez nous, manger mieux, c'est moins de lait, moins de viande, moins de matière grasse, moins de sucre, moins de sel. Alors, ça peut paraître un peu dur, mais c'est plein de bonnes choses. C'est plein de légumes de saison, locaux. C'est plein de légumineuses.
On va y venir sur qu'est-ce qu'il faut manger,
donc,
effectivement.
Il y a quand même beaucoup de choses. Mais chez nous, si on peut manger deux fois moins de viande, c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, c'est ça qui a commencé. Nous avons amorcé notre décroissance de production de viande et de lait. C'est en partie pour ça que tout notre système d'élevage est en crise.
Manon Dugré.
Oui, j'aimerais rajouter, je suis complètement d'accord et le résumé était très bien dit. C'est assez impressionnant de se dire qu'effectivement en 2050, on sera quand même deux fois plus qu'en 1980. Donc c'est assez effrayant. La hausse de production mondiale, c'est de 70%. Et les nutritionnistes avec lesquels je travaille, pour eux, l'enjeu, c'est vraiment autour de l'approvisionnement en protéines qui sera majeur dans les années à venir. Donc c'est à la fois une question de quantité, puisqu'il va falloir en fournir beaucoup plus. Les populations sont de plus en plus nombreuses, mais également elles s'enrichissent. Donc elles consomment de plus en plus de protéines, mais c'est aussi une question de qualité, et notamment la qualité des protéines. Les protéines, elles peuvent être de source animale ou de source végétale. En Occident, la part des protéines issues des végétaux est égale à peu près à un tiers, et de source animale, on est plutôt à deux tiers. Ce qu'il faudrait, c'est inverser cette tendance. D'ici 2050, on espère vraiment pouvoir inverser cette tendance. Et voilà, et les actions qu'on doit mettre en œuvre doivent vraiment viser ce rééquilibrage.
Bruno Parmentier.
Peut-être pour bien comprendre, en France, au XXe siècle, on s'est fixé sur le millésime. Dans les années 30, on mangeait 30 kilos de viande et 30 kilos de lait par an et par personne. Dans les années 50, on est passé à 50 kilos. Dans les années 80, 80 kilos. Et au tournant du siècle, 100 kilos de viande, 100 kilos de lait. Alors bien entendu, notre élevage, il a fait de la quantité. C'était éblouissant. Bien. Et ça y est, la viande et le lait sont devenus moins à la mode. Et donc maintenant, les critiques arrivent. La souffrance animale, les scandales dans les abattoirs, est-ce que ça donne le cancer, l'athérosclérose, etc. Est-ce qu'ils mettent des antibiotiques dedans, etc. Et ça y est, on a amorcé la décrue. C'est-à-dire, on est passé de 100 kilos de viande à 85 kilos de viande et 100 kilos de lait à 90 kilos de lait. Alors, il faut accompagner ça. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait, c'est retourner à quelque chose de normal, entre guillemets, pour la santé, la nôtre et celle de la planète, en moyenne 50 kilos par tête de pipe. Ça veut dire qu'il faut encore réduire, nous, de 30 à 40% notre consommation de viande et de lait. Mais du point de vue de la santé, on sera en bien meilleure santé si on en prend moins. On en prend beaucoup trop et nous avons les maladies des pays riches de ceux qui mangent trop. Donc ce sera nettement meilleur pour la santé. Et il faut faire pour la viande et le lait, chez nous, ce qu'on a fait pour le vin. Parce que dans le même temps, dans les années 50, le litron, faut dire, ça y allait. C'était 140 litres de vin par tête de pipe et par an. Maintenant, il n'y a plus que 40. Mais on a toujours des viticulteurs. Mais ils ont dit, du vin, t'en veux moins, eh ben, ce sera que du bon, que du cher. Et donc, on a inventé le deuxième verre, on met plus d'eau dans son vin, etc. Il n'y a plus de litron, on le vend par 75 centilitres. Et tout le monde est relativement content. Et donc, il va falloir retourner notre système d'élevage entièrement sur la qualité, alors qu'il est actuellement entièrement sur la quantité. Ce sera nettement meilleur pour la planète, nettement meilleur pour la santé, mais il faut accompagner cette mutation énorme. Mais ça, c'est chez nous. On va pas dire aux Africains qui sont encore végétariens, restez végétariens. Mais en même temps, on peut leur dire, si votre programme c'est zébu frites tous les jours, vous allez jamais y arriver. Restez quand même fondamentalement végétarien. Mais vous pouvez faire ce qu'Henri IV préconisait, la poule au pot tous les dimanches. Je vois pas au nom de quoi on va leur refuser, aux Africains, de manger du poulet le dimanche.
I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious.
Et c'est par cet extrait de Matrix que l'on passe à la Madeleine aujourd'hui. La Madeleine, d'une romancière.
Oui, la romancière Michèle Audin, qui est aussi une des grandes figures des mathématiques françaises, qui est aussi une des rares femmes à faire partie de l'Oulipo. Michèle Audin est la fille du mathématicien Maurice Audin, le mathématicien communiste mort sous la torture pendant la guerre d'Algérie, hein, dont l'assassinat a été reconnu récemment par Emmanuel Macron. Pour sa madeleine, Michèle Audin a choisi un légume.
Ah bah ça tombe bien, il faut qu'on en mange pareil.
Voilà, elle a choisi de nous parler des petits pois de son grand-père.
Un goût qui me fait venir un grand souvenir, c'est les petits pois. Donc, des petits pois pas trop fins, pas de conserve, des petits pois. Ah, je mange des petits pois et je me revois, c'est l'été, on est dehors avec mon grand-père, on est à la table et on est en train d'écosser des petits pois. Et tout autour, il y a mes frères, mes cousines, mes cousins qui jouent et nous deux, on est là et on écosse les petits pois. On prend ça très au sérieux, il y a une passoire, il y a un panier, et puis vraiment c'est un grand moment d'intimité, et puis moi je parle tout le temps parce que je suis très bavarde, et puis lui il dit rien parce qu'il n'est pas bavard, et il écoute, il a un petit air ironique, mais quand même sympathique quand il écoute, c'est un vrai grand moment. Il vérifie que je gaspille pas, que je fais pas tomber des petits pois. D'abord les petits pois des fois ils venaient du jardin, ils les avaient cultivés déjà. Mais pas toujours, des fois il venait du marché. Il était extrêmement économe, parce que bon, c'était quand même une famille très très modeste, ils n'avaient pas d'argent, donc on faisait attention. Quand j'épluchais des pommes de terre, il me disait « Regarde, t'as vu tout ce que tu jettes là ?» en montrant l'épaisseur des épluchures. Voilà. Non, mais dans les petits pois, c'est plus facile de ne pas gaspiller. Il suffit de ne pas laisser de petits pois dans les cosses.
Elle faisait chauffer au feu de bois des petits pois.
Mais nous, on gaspille rien. Donc, les petits pois, dans la passoire, ils vont à la cuisine, mais les cosses des petits pois, elles vont dans le panier et puis elles vont être données aux bêtes. Et du coup, peut-être que le lapin qu'on va manger demain ou après-demain, bah, il aura aussi le goût des petits pois que j'ai écossé avec mon grand-père.
Petits pois, petits pois, petits pois, petits pois, petits pois, petits pois.
Petits pois. C'est pas quelque chose qui a un goût très très fort ou... C'est pas du caviar, c'est pas... mais c'est des petits pois, ça a un goût, on sent qu'on mange un légume, c'est vert. Peut-être que ça a le goût de vert. Bah, les petits pois sont tendres en fait, eux aussi. Voilà, les petits pois.
Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Les petits pois, les petits pois, les petits pois.
Voilà la madeleine, merci Natacha Triou de Michèle Audin sur le petit pois. On l'entendait dire, nous on ne gaspille rien. Ça c'est une dimension extrêmement importante de la révolution alimentaire à venir. Manon Dugré, dans la bande dessinée numérique que vous avez menée avec vos confrères de l'ANCA, la chaire aliments, nutrition, comportement alimentaire de l'école AgroParisTech, manger vers le futur, il est vraiment question de lutte contre le gaspillage et ce dès maintenant.
Oui, alors il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers de la production mondiale qui part à la poubelle chaque année. Donc c'est voilà, c'est assez effrayant.
Considérable.
Ça devient complètement irresponsable de jeter de la viande quand on sait en fait toute la valeur que ça a derrière.
Bruno Parmentier sur le gaspillage.
Oui, alors parlons un peu de chiffres. Nous introduisons une tonne par an par notre bouche. À peu près 600 kilos de liquide, 400 kilos de solide, à peu près 1 kilo par jour. Donc, si je suis logique, si je dis, ben, on jette un tiers, on mange 400 kilos, ça veut dire qu'on jette 200 kilos. On a produit 600 kilos. Mais ensuite, il faut se dire, globalement, plus on est riche, plus on jette. Alors, on jette moins que les Américains, mais on jette plus que 200. Moi, j'estime qu'on jette 240 kilos. Chaque Français jette 240 kilos. Alors, on culpabilise ce qu'on jette, nous, dans notre cuisine, mais c'est un système global. Il y a trois tiers, grosso modo. Un tiers, à peu près 80 kilos, il reste au champ. Bah, par exemple, les carottes tordues restent au champ. Mais le poisson, c'est encore pire. On récupère tout, et puis on jette ce qui est trop gros, ce qui est trop petit, ce qui est hors norme, ce qui est etc., etc. 80 kilos. Alors ensuite, il y a à peu près autant 80 kilos dans le système industriel, dans le transport, dans l'industrialisation et dans la commercialisation. Et puis, il y a encore deux fois 40 kilos, 40 chez nous, 40 au restaurant. Et donc, les marges de progression pour gâcher moins, elles sont absolument gigantesques. Faut arrêter de gâcher, faut manger des légumes moches, faut arrêter de mettre des dates limites de production, etc.
Et quand on mange des petits pois, il faut tout
garder. Il faut tout manger. Et à la fin, les restes de légumes, on les met dans la soupe du soir, etc.
Comme vous disiez qu'il fallait baisser la consommation de viande et de lait, l'un et l'autre, on le remplace par quoi ? Aujourd'hui, on parle des insectes, on parle des légumes, on parle des algues. Mais quand je pense aux insectes, on peut même penser que la population d'insectes, en tous les cas sous nos contrées, diminue, par exemple, du fait de la disparition des insectes tout court, et puis aussi la disparition des abeilles, qui fait craindre celle de la biodiversité, donc celle des légumes. Alors, est-ce qu'on peut se dire, alors je me tourne vers vous, Manon Dugré, à l'horizon 2050, qui est votre horizon aussi pour la BD Manger vers le futur, est-ce qu'on pourra encore manger des insectes, des légumes et des algues ?
Alors, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'innovations produits qui sont montrées aujourd'hui comme des substituts à la viande. Donc il y a les insectes, mais pas que. Il y a également l'algue, la viande de synthèse également. Je pense qu'il faut être assez précautionneux sur ces innovations qui font un peu le buzz, mais on peut le comprendre pourquoi. C'est assez, assez loin de nos modes alimentaires habituels. La plupart du temps, alors notamment pour le cas des insectes, les rendements ne sont pas les mêmes que pour la viande. C'est une bonne source de protéines, effectivement, mais on connaît encore assez peu les conditions dans lesquelles on pourrait élever ces insectes. Là où on voit peut-être un intérêt un petit peu plus important, c'est pour l'alimentation animale, éventuellement. Non, ce qu'on pense aujourd'hui, et c'est peut-être un petit peu moins en rupture avec ce qu'on aimerait entendre, mais c'est que tout simplement diminuer la consommation de produits animaux au profit de protéines animales, ça c'est par contre une solution bien plus intéressante.
D'avenir.
D'avenir.
Merci. D'avenir. Bruno Parmentier.
Allez, une boutade. Vous aimez le bœuf carotte, par exemple,
ça pourrait être. On enlève le bœuf ?
Non, on passe à la carotte au bœuf. Pourquoi ? Deux fois plus de carottes, deux fois moins de bœuf. 50% de gaz à effet de serre en moins. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est obsédé comme ça par la viande ? Il n'y a qu'à regarder les menus des restaurants, ils n'annoncent que la viande. Il y a même des restaurants qui disent la viande, et puis pour les légumes, vous allez prendre, de toute façon c'est gratos, vous reprenez, etc. Mais dans d'autres pays, par exemple en Afrique du Nord, ils sont pas obsédés comme ça. Vous choisissez couscous ou tagine, puis ensuite... Vous dites, l'accompagnement, ça va être avec des merguez, etc.
Il n'y a pas que l'alimentation, Bruno Parmentier, vous le dites très bien, il y a aussi l'agriculture. Est-ce que l'agroécologie intensive, c'est possible, c'est la panacée ?
Oui, c'est-à-dire que jusque-là, on ne connaissait rien aux vivants. Il faut se rendre compte que dans un gramme de terre, de forêt, il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Sous un mètre carré de sol, il y a 230 millions d'êtres vivants. On ne connaît absolument pas les êtres vivants, et notamment les êtres vivants qui sont tout petits. Et c'est seulement maintenant qu'on va faire connaissance avec la liaison entre l'infothèque et la biotech. On va faire connaissance enfin avec ces 90% des êtres vivants qu'on ne connaissait pas. Et donc, notre agriculture chimique et avec le labour détruit tout parce qu'on avait peur de ce qu'on connaissait pas. Et donc, au lieu d'une agriculture qui a peur de la nature et qui détruit la nature, on va faire connaissance avec la nature, on va aider ces 230 millions d'êtres vivants, de bébêtes, à faire leur travail de bébêtes. Alors, par exemple, on va arrêter d'acheter des engrais, on va cultiver nos engrais en couvrant les sols en permanence. On va arrêter d'acheter des herbicides. On va cultiver nos herbicides. On va cultiver des plantes de service qui vont nous rendre service. On va arrêter d'acheter des insecticides. On va élever nos insecticides. On va élever des bébêtes qui mangent les bébêtes, qui mangent nos plantes.
Manon Dugré, ça, c'est un idéal. C'est complètement utopique. Si on se projette à l'horizon 2050 et qu'on regarde la fin de votre bande dessinée « Manger vers le futur », la terre n'a pas brûlé, c'est déjà une bonne nouvelle. On n'est quand même pas tous végétariens. Alors, je ne sais pas si c'est être optimiste, mais à certaines conditions, disons.
On va dire ça, oui. C'est vrai que à l'échelle individuelle, on aimerait bien tous savoir ce qu'on doit faire pour jouer sur son assiette et puis avoir un impact positif sur la planète. Je pense que c'est quand même quelque chose de très important et je trouve ça extrêmement positif, tout ce qui se passe en ce moment, toutes les initiatives du type « on est prêt » et ce qu'on a essayé de faire avec la BD. Je pense que les consommateurs, là, il y a un créneau, ils sont intéressés par la question. Donc, bien sûr, toutes les actions à l'échelle individuelle sont importantes. Donc pour moi, à l'échelle individuelle, c'est le régime flexitarien, réduire sa consommation de viande, avoir une consommation plus raisonnée, ne pas surconsommer tout simplement, ça reste des choses vraiment du bon sens. Après, ça ne suffira pas. Je pense que sans décision politique majeure, on n'y arrivera pas. Et c'est ce qu'on a voulu montrer également dans la BD. Il y a vraiment des choses à faire, notamment pour améliorer les modes de production. Voilà, soutenir notamment la production de légumes secs qui ont des rendements moins importants que les céréales et qui se retrouvent en compétition, notamment pour l'alimentation animale. Bien sûr, chacun de nous peut faire quelque chose, mais sans les politiques, ce sera compliqué.
Allez, citoyens et politiques tous ensemble, c'est un mot d'ordre qu'on pourrait effectivement crier aujourd'hui, de toute façon, dans un autre contexte. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin. Restez avec nous, Bruno Parmentier et Manon Dugré, pour écouter la cerise sur le gâteau de l'ami Pierre Hivernin. Alors Pierre, on connaissait évidemment les sommeliers en vin. Eh bien non, vous allez nous parler d'une sommelière en huile d'olive.
Eh bien oui, Caroline, je voudrais vous parler d'abord bizarrement d'un cadeau de Noël un peu étrange. C'est un livre qui est intitulé « Mémoire et journal d'observation et d'expérience sur les moyens de garantir les olives de la piqûre des insectes ».
Il a peut-être fallu dire à l'éditeur de revoir le titre pour le raccourcir.
C'est ça, mais la chose a été éditée par l'Académie des sciences de Paris en 1769, avec une reliure en velin. L'ouvrage est tout à fait introuvable, je vous rassure Caroline. Sauf chez Emmanuel de Chelette, qu'il a reçu à l'occasion de son dernier Noël. Il faut dire que celle-ci exerce une profession encore rare, mais apparemment en plein développement, effectivement sommelière en huile d'olive. Alors vous allez me dire, voilà bien encore un truc de bobo qui ne savent pas quoi inventer pour exister dans le monde hautement concurrentiel de la gastronomie. C'est d'ailleurs, je l'avoue, la première pensée qui m'est venue avant que je ne découvre l'ouvrage qu'Emmanuel vient de publier avec sa co-auteur Leïla Maquet et joliment intitulé « Extra vierge ». 34 portraits, 34 huiles d'olive, 34 recettes et surtout 34 histoires qui vous font faire le tour de la planète. Et c'est la première surprise. À ceux qui imaginent que les olives de qualité sont seulement produites sur le pourtour du bassin méditerranéen, Emmanuel vous emmène par exemple découvrir la variété Easy 8, débarquée en Chine dans les années 60. Pourquoi ? Eh bien pour lutter contre la famine. Produite à partir de variétés espagnoles et italiennes, le numéro 8 fait référence à la 8e génération, la plus résistante aux maladies et aux aléas climatiques. Plus surprenant encore, une huile d'olive Don Carlo qui a été développée par un Italien totalement passionné. Il est allé faire ça en Afrique du Sud. Bref, l'huile d'olive est plus universelle qu'on ne le croit. On apprend aussi que consommer de l'huile d'olive permet de préserver l'environnement. Et quant à ses bienfaits pour la santé, c'était une qualité déjà connue durant l'Antiquité gréco-romaine.
Oui mais Pierre, pourquoi sommelière? Alors, je suppose qu'il y a un parallèle de fait avec le vin quand même.
Parfaitement, Caroline. Et pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'à l'instar du vin, le goût de l'huile d'olive dépend essentiellement de la variété, équivalent donc du cépage pour le vin, du sol, évidemment, on vient d'en parler, du mode de culture, notamment en irrigation ou non, des conditions climatiques, évidemment, de la récolte et, ça va de soi, du savoir-faire de l'oéliculteur, de la conservation, et le parallèle avec le vin est total. Et puis la deuxième raison, comme pour le vin, c'est celle de l'art de la dégustation qui permet notamment de juger si une huile remplit le cahier des charges organoleptiques pour obtenir un label AOP, AOC, etc. Ainsi, les sommeliers gardent l'huile en bouche pendant 15 à 20 secondes et parlent ensuite de catégories de fruités avec des évocations d'herbes coupées, de fruits mûrs, etc. Et puis on passe à l'amertume qui est la seule et unique saveur de l'huile d'olive avant de juger enfin l'ardence qui sonne comme une petite irritation au niveau de la bouche et de la gorge, comme pour le piment. Alors tout ça ne serait qu'affaire de spécialistes ? Eh bien non. Emmanuel prépare pour janvier prochain la troisième édition des Olio Nuovo Days, un festival à Paris où l'on pourra découvrir toutes les subtilités d'huile du monde entier sélectionnées par elle-même et puis sa consœur qui a fait ce nouvel ouvrage. Et contrairement au vin, vous pourrez venir avec vos enfants qui ne manqueront pas de rapidement se familiariser avec le doux métier de sommelier en huile d'olive.
Merci beaucoup Pierre Hivernin d'Alimentation Générale et à la semaine prochaine. Bonnes choses se poursuivent en réécoute en podcast sur le site de France Culture avec toute l'équipe Stéphanie Villeneuve, Aigoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour Ludovic Auger. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, ce sera le journal suivi de Signe des Temps par Marc Weitzmann.